Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Gérard Farras, qui publie deux livres aux éditions Alcide à Nîmes, Francis Ponge, Vie parallèle, et Francis Ponge, Profession artiste en prose. On devrait pouvoir à tout poème donner ce titre « Raison de vivre heureux ». Pour moi, du moins, ceux que j'écris sont chacun comme la note que j'essaie de prendre lorsque d'une méditation ou d'une contemplation jaillit en mon corps la fusée de quelques mots qui le rafraîchit et le décide à vivre quelques jours encore. Vous êtes universitaire, Gérard Farras, professeur de littérature française à l'Université du Littoral. C'est à Dunkerque.
À Dunkerque, oui. À Dunkerque, Boulogne et Calais.
Vous co-dirigez la revue des sciences humaines et vous avez un auteur de prédilection, je crois qu'on ne peut pas le cacher, c'est Francis Ponge.
Ben oui, il se trouve que depuis... ma première lecture du Parti pris des choses en 67-68, par là, je n'ai plus quitté Francis Ponge. Son œuvre m'a étonné, surpris. J'ai trouvé qu'il y avait un élément de rupture radicale dans le champ de la poésie qui était apporté par Ponge. Et j'avoue qu'au début... si intéressé que je sois par lui, j'étais perplexe. Je ne comprenais pas bien où il voulait en venir. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et peu à peu, on s'y fait très vite. On comprend, non pas le système de Ponge, parce qu'il n'y a pas un système, mais une pensée cohérente, une pensée qui s'est développée. En entrée, vous citiez par exemple « Raison de vivre heureux » et effectivement, chez Ponge, il n'y a pas simplement celui qui est le descripteur d'objets. Il y a cette intention de favoriser tout ce qui permet à l'homme de s'épanouir et donc d'être heureux. Et parmi ces raisons de vivre heureux, il y a pour lui l'écriture, puisqu'il ne sépare pas sa vie, son existence, de l'acte d'écrire. Toute son existence, il l'a gagée en quelque sorte sur cette entreprise, qui est une entreprise où entre aussi, comment dire, une volonté d'être utile, hein, d'être utile à la communauté, parce que Ponge a un fort sens civique, et donc les choses belles doivent être aussi des choses utiles. Le pont du Gard est un beau monument, mais c'est aussi un monument utile, et c'est ce qui séduit Ponge. Et les œuvres d'art, les poèmes en prose... Il n'aimait pas trop ce terme de poème, ni ce terme de poésie, mais Ces textes, donc, puisque la notion de texte va émerger dans les années 70 et se répandre, ces textes doivent être utiles aux hommes.
Mmh. Il préférait se considérer comme un technicien plutôt que comme un artiste.
Comme un savant, comme un scientifique d'un genre nouveau. Il y a chez lui une intention de connaissance plus qu'une intention de beauté. Ce texte refuse les ornements, il refuse les belles trouvailles, il refuse les joliesses au profit d'une sorte de vérité.
Vous disiez, Gérard Farras, que vous avez découvert le parti pris des choses vers 1967.
Oui.
Est-ce que ça vous a donné le désir de rencontrer l'auteur de ces textes?
Oui, ça s'est passé d'une façon assez particulière, parce que à l'époque, je travaillais, j'étais étudiant en lettres, et donc je voulais faire un mémoire de maîtrise sur la rhétorique, qui était un peu dans l'air, en particulier sur Dumarsais. Et puis j'ai rencontré le Parti pris des choses et j'ai décidé de faire quelque chose sur le Parti pris des choses. Et puis j'ai écrit donc un mémoire qui avait pour titre la métaphore traversée, peu importe. Et puis j'ai eu l'outrecuidance des jeunes gens. Je l'ai envoyé à Ponge, qui ne l'a pas reçu tout de suite, mais qui m'a envoyé un télégramme en me disant que il fallait dire que, à mes maîtres qu'il était enchanté de ce travail. Donc, à la suite de cela, nous nous sommes rencontrés. C'est un homme, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, d'un abord extrêmement facile, qui a toujours été très très encourageant avec moi, qui me disait par exemple il ne faut pas écrire de textes critiques, il faut écrire une œuvre, parce qu'il savait que par ailleurs j'écrivais des textes qui n'étaient pas des textes critiques. Donc c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la construction de ma personne, de ce que je suis. Et j'ai une dette à son égard qui est une dette qui est ineffaçable.
Donc vous avez eu plutôt de la chance, parce que selon certains qui l'ont également côtoyé, être son ami ou simplement entrer en relation avec lui, en relation durable, relevait de l'art et d'un art plutôt difficile.
Je crois que c'était quelqu'un qui avait des amitiés et des inimitiés entières. C'était quelqu'un d'entier, donc il était entier dans l'amitié, comme il était entier ensuite dans la détestation quand ça lui arrivait de changer. Donc on ne va pas évoquer des noms, mais il est certain que il a fait des rencontres, il a rencontré des gens qui l'ont beaucoup aidé et qui l'a aidé, comme Philippe Solers, par exemple.
Ou Jean Tortel.
Ou Jean Tortel, Christian Prigent également. Donc, avec Tortel, la relation ne s'est pas dégradée. Donc, avec Solers, la relation s'est dégradée. Avec Prigent, la relation s'est dégradée.
Avec Tortel, elle s'est tout de même légèrement dégradée, puisque inexplicablement, en tout cas pour Jean Tortel, Ponge, à un moment donné, est devenu silencieux, oui, sans donner la moindre explication.
Oui, je ne me souviens pas de cela. Oui.
Je m'en souviens bien, parce oui. que Tortel en a beaucoup souffert.
Ah oui. Mmh. Oui, bon. Voilà, les hommes sont les hommes. Moi mon expérience de Ponge, c'est que c'était quelqu'un c'était quelqu'un qui avait eu une éducation protestante. Hein. Cette éducation protestante, on la sent bien dans de multiples aspects de son œuvre. Et dans ses relations avec ceux qui étaient ses amis, et qui le sont restés, Je crois que c'était un homme d'une grande générosité. Par exemple, pour donner un exemple, ce n'est pas pour parler de moi, mais il avait proposé un texte de moi chez Gallimard, sans me le dire. Il a été refusé peu importe, mais je...
Peut-être parce qu'il avait été proposé par lui.
Peut-être, oui, peut-être. Toujours est-il qu'il m'en a jamais touché un mot, et je l'ai appris par la suite en consultant ses archives, et j'étais touché de sa délicatesse.
Alors Gérard Farras, en ce qui vous concerne, vous n'en êtes pas resté aux mémoires universitaires, vous avez beaucoup travaillé sur Francis Ponge. Je crois que vous êtes l'un des artisans de cette fameuse pléiade en deux volumes, de ses œuvres complètes, mais pas seulement. Sur Ponge, vous êtes l'auteur, entre autres, de L'âne musicien, qui a été publié, alors celui-là, chez Gallimard, en 1996, et du guide d'un petit voyage dans l'œuvre de Francis Ponge, un livre que vous avez écrit avec Bernard Weck aux presses du Septentrion, en 1999 aussi, ainsi que chez le même éditeur d'un entretien avec Jacques Derrida, Déplié Ponge.
Oui, bon, le guide d'un petit voyage dans l'œuvre de Francis Ponge, je l'ai écrit avec mon ami Bernard Weck, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'était quelqu'un qui connaissait Ponge par cœur. Et donc, on a travaillé souvent ensemble sur l'œuvre de Ponge. Quant à Déplier Ponge, j'avais été surpris par le texte de Jacques Derrida, Ciné Ponge, qui était d'abord une conférence au colloque de Cerisy de 1975 sur Francis Ponge. Et je n'avais pas tout à fait bien compris le discours de Derrida. Donc, quelques années plus tard, je suis allé voir Derrida, que je connaissais un peu par ailleurs, et à qui j'ai posé un certain nombre de questions. Donc, Derrida m'a dit surtout ne posez des questions précises. Ne me dites pas « et alors, Ponge ?» Et donc, j'ai posé des questions qui font parfois plus de deux pages, ce qui a donné lieu à cet entretien fort long, qui je crois, est intéressant parce que Derrida est un merveilleux analyste, et puis il connaissait vraiment très très bien Ponge, il avait une grande admiration pour Ponge.
Il faut dire qu'entre-temps, la conférence de Cerisy était devenue un livre aux éditions du Seuil.
Voilà, signé Ponge, oui. Et donc, c'est une réflexion de Derrida sur la signature, sur le nom propre, sur le fait que Ponge signe plutôt deux fois qu'une ses textes. Il les signe pas simplement à la fin du texte, mais aussi à l'intérieur, comme il le dit dans le volet. Donc il y a toute une réflexion sur le nom propre, sur l'idiome, sur la propreté et la propriété chez Ponge dans ce livre de Derrida, qui est vraiment un très très beau livre. Tous les Pongiens ne l'aiment pas, parce que tous les Pongiens n'aiment pas nécessairement la philosophie, mais c'est un très beau livre sur Ponge à mes yeux.
Alors il y a donc ces publications dont on vient de faire l'inventaire, mais il y en a d'autres parce que ce soir, sur la table du studio, vous avez étalé non seulement les deux livres qui viennent de paraître chez cet éditeur nîmois, extrêmement discret, il ne met pas son nom sur la couverture de ses livres, édition Alcide, Francis Ponge, vie parallèle, et Francis Ponge, profession artiste en prose, mais je vois deux autres livres dont vous êtes, d'une certaine manière, l'un des auteurs.
Oui, enfin, il y a le livre d'Armand Ponge, Francis Ponge, album Amicorum, qui est paru dans les cahiers de la NRF. Armand Ponge a fait un travail considérable puisqu'elle a rassemblé tous les envois qu'elle a pu trouver de son père à des auteurs et tous les envois que ces auteurs ont fait à son père, ce qui fait un volume tout à fait intéressant. En quatrième de couverture, par exemple, on a une dédicace à Pierre Boulez avec une sorte de calligramme en forme d'oreille. Bon, ce qui est assez étonnant, je crois que c'est un exemple unique dans les dédicaces que fait Ponge. Mais on apprend beaucoup de choses sur la vie littéraire, par exemple, sur l'admiration de Du Boucher pour Ponge. on apprend aussi la constante de l'amitié de Mandiargue pour Ponge.
Il y a un très beau texte d'entrée du Boucher sur le verre d'eau de Francis Ponge,
oui,
publié à l'origine dans les années 50 dans la revue Critique.
Oui, Ponge a lui-même écrit sur du Boucher. Et puis, donc ça, c'est un...
Ça, c'est chez Gallimard.
C'est chez Gallimard. Et puis, un autre volume, qui est une édition critique de la correspondance entre André-Pierre de Mandiargue et Francis Ponge.
Ah ouais, c'est plus étonnant comme relation.
Oui, c'est une relation qui peut surprendre, parce que... Mandiargue est vu comme dans le sillage du surréalisme. Mandiargue est quelqu'un qui pratique la fiction, Ponge ne pratique pas la fiction. Ce sont deux hommes qui peuvent sembler habiter des univers tout à fait étrangers.
Quels ont été les rapports de Francis Ponge avec le surréalisme et Breton en particulier?
Parmi les surréalistes, celui qu'il préférait, c'était Éluard. Donc c'était avec Breton, je ne saurais trop dire. Avec Aragon, Aragon l'a invité à travailler pour les pages culturelles du journal Action de 45 à 47 dans l'après-guerre. Je crois que la position théorique de Ponge sur le surréalisme, c'est que le surréalisme, évidemment, apporte quelque chose de tout à fait nouveau, en rupture avec une certaine tradition littéraire. Et d'ailleurs, quand on regarde son état d'esprit dans les années 20-30, il appartient à la même génération. Hein, et donc, il a cet état d'esprit de contestation, de violente opposition à la société capitaliste, et ainsi de suite. Seulement, cette littérature qui privilégie le rêve, l'imagination, est une littérature qui, pour lui, commet une erreur en quelque sorte. Hein. Elle est la suite du romantisme, elle privilégie l'image, alors que Ponge est quelqu'un qui, d'une part, travaille à contre-image, hein, essaie de détruire ou de déconstruire la métaphore. Il ne veut pas qu'on réduise l'activité poétique à l'image. Et d'autre part, il pense que la seule providence de l'esprit, c'est sa formule, c'est la matière. Et que donc l'homme doit s'affronter à un objet pour sortir de lui-même et trouver quelque chose de nouveau. Et donc les rêves, par exemple, ne l'intéressent pas en tant qu'origine de production littéraire, parce que ce sont des productions purement subjectives, où on ne rencontre pas la résistance de quelque chose d'autre, hein, une altérité qui résiste et qu'il va falloir affronter.
Alors, présentons tout de même ces deux livres qui sortent aujourd'hui. Il y en a un gros et un peu moins gros. Hein. Le gros, c'est Francis Ponge, Vie parallèle. Un portrait de l'artiste avec groupe, comme vous dites. Et l'autre, Francis Ponge, Profession artiste en prose, c'est un livre qui n'est pas sans rappeler la formule de la défunte collection Poète d'aujourd'hui, que je cite volontairement parce que on se rappelle que le premier Ponge de cette collection était précisément signé Philippe Solers.
C'était le premier livre sur Francis Ponge.
Ouais. Alors justement, dans ce livre, Profession artiste en prose, il y a un texte de vous, et puis une anthologie de textes.
Oui, ça rappelle.
Donc vous êtes, je pense, l'auteur. Des repères biographiques dus à Serge Vollet, qui est le directeur de la collection, où les livres sont publiés. Et enfin, une bibliographie qui m'a semblé assez complète.
Oui, donc, enfin, c'est un. Le projet, c'était de publier Vie parallèle. Et l'éditeur a pensé qu'il fallait, pour éclairer le lecteur, donner une présentation générale de Francis Ponge. C'est pourquoi on a ajouté ce petit volume, Profession artiste en prose, qui reprend un texte que j'avais écrit à l'occasion de l'inauguration d'une plaque sur la maison natale de Francis Ponge à Montpellier, puisqu'il a vécu un an à Montpellier avant de partir pour Avignon. Et donc, les gens de Montpellier m'avaient demandé d'écrire un texte qui soit accessible. Donc j'ai essayé en 30 pages, de donner une sorte de vue panoramique de l'œuvre de Ponge. J'essayais de montrer quelle a été sa progression. J'essayais de montrer quels étaient ses arrière-plans moraux, politiques, sociaux également, enfin assez rapidement. Et puis, il fallait une illustration, donc il fallait donner le goût de lire, et on a choisi un certain nombre de textes qui sont en rapport avec la préface. Donc il y a des textes du Parti pris des choses, il y a des textes de La rage de l'expression, il y a des textes du Malherbe, il y a le texte fondamental dont Ponge avait pensé faire l'introduction au Parti pris des choses, qui est l'introduction au galet, ce célèbre galet de Ponge. Donc ce premier livre est une sorte d'introduction accessible à tout le monde, je crois, à l'œuvre de Ponge, alors que le second est un peu plus érudit, dans la mesure où j'entre dans le détail biographique. Je présente Henri Calais, par exemple. Tout le monde ne connaît pas Henri Calais. Donc
on lit d'abord Francis Ponge, profession artiste en prose. Voilà. On va prendre une tasse de thé, voilà. Assez fort. Et on s'engage dans Francis Ponge, vie parallèle. Mmh. Alors je disais portrait de groupe, parce que c'est une expression qui vient sous votre plume, mmh, au tout début du livre. Le groupe étant composé de 7 écrivains, mmh, vous en avez choisi 7, vous auriez pu étendre un peu la liste.
Oui, c'est vrai, mais c'est indéfini, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là et qu'on aurait pu évoquer. On aurait pu évoquer Sartre, évidemment, mais ça a été fait assez souvent. On aurait pu évoquer Tortel, dont vous parliez tout à l'heure. On aurait pu
Tortel, qui a écrit de très beaux textes, c'est sur Ponge.
Bien sûr, oui, oui.
Alors donc, votre liste des 7 gagnants, c'est Jean Poulenc, Léon Paul Fargue, Albert Camus, Henri Calais, André-Pierre de Mandiargue, que nous citions tout à l'heure, Philippe Jacquetet, également voisin géographiquement, et Philippe Solers.
Oui, je crois que ça permet de dessiner quand même une belle trajectoire. Oui. Il y a des gens qui ont accompagné Ponge comme Poulenc pendant plus de 40 ans. Il y a des gens qui ont eu un rôle important dans la compréhension que Ponge a eue lui-même de son œuvre, et notamment Camus. Il y a la deuxième partie du livre Proème de Ponge, qui a pour titre Page bis, est consacrée au dialogue avec Camus, puisque Ponge a eu la chance de pouvoir lire le mythe de Sisyphe, qui s'appelait d'abord Essai sur l'absurde en manuscrit. Et Ponge a été fasciné par cette œuvre de Camus. Il a essayé donc de se situer par rapport à celle-ci. Pour Ponge, que le monde soit absurde, il l'écrit, il le dit, n'est pas un problème. Alors qu'il semble que pour Camus, ce soit quand même un problème.
Mais pour vous, la rencontre entre ces deux hommes et ces deux œuvres,
c'est une rencontre,
a bien eu lieu.
Elle a eu lieu, oui. Alors il y a eu aussi, il y a la rencontre. Donc il y a Poulenc, évidemment, il y a Camus.
Poulenc, ça n'a pas été toujours facile. Hein. On parlait tout à l'heure de la difficulté de l'approche.
Une amitié orageuse, c'était ce qu'il y avait sur le bandeau rouge de la correspondance de Ponge Poulenc et Dupèche chez Gallimard.
Il y a eu de la brouille.
Ponge dit lui-même, d'ailleurs, que Poulenc a été l'adversaire. Et je crois que c'est intéressant parce que Ponge a d'abord s'est mieux compris dans le contact avec Paulhan et il a toujours défendu ses positions. C'est-à-dire que dès que on a l'impression que dès que Paulhan lui disait ah non là ça n'est vraiment ce n'est pas bon, Ponge se disait lui c'est là qu'il c'est dans cette direction qu'il faut aller.
Mais vous pensez vraiment que Paulhan, comme Ponge lui-même l'a écrit, a mis au jour Francis Ponge?
Il a beaucoup aidé. Il a mis au jour au sens au jour de la publication. Hein, le premier livre de Ponge, Les 12 petits écrits, ont été publiés donc par Paulhan. Le Parti pris des choses a été publié par Paulhan. Donc à la lettre, Paulhan a rendu public Ponge. Peut-être pas assez aux yeux de Ponge par moment.
Jusqu'au moment où Paulhan s'est réfugié dans le silence.
Oui, Paulhan et Ponge avaient une relation certainement très privilégiée avec Paulhan. Ils étaient tous les deux originaires de Nîmes, donc c'était des méridionaux, mais... Paulhan avait des relations avec quantité d'écrivains et finalement Ponge était un écrivain parmi tous les écrivains que Paulhan essayait de susciter. Donc il y a un rapport un peu déséquilibré entre les deux hommes qui fait que Ponge éprouve peut-être comme des un manque d'amitié pour le fait que Paulhan soit occupé ailleurs.
L'amitié avec Henri Calais, alors peut-être plus surprenante aussi.
Oui, c'est une amitié surprenante, mais c'est une amitié qui, à mon avis, n'est pas une amitié littéraire, hein, c'est une amitié d'homme. Il y a une séduction de Calais. Armande Ponge, la fille de Francis Ponge, me disait que Henri Calais était un homme extrêmement séduisant. Et je crois que c'est une amitié qui n'est pas fondée sur, en tout cas du côté de Ponge, sur une admiration pour l'œuvre de Calais.
Et pourtant, Ponge invite Calais à participer à une enquête sur la rhétorique des Cahiers du Sud.
Oui, mais c'est une question qui visiblement n'intéresse pas beaucoup Henri Calais.
Pourtant, vous soulignez que dans sa réponse, il est passé aux aveux complets.
Oui, mais les aveux complets consistent à dire que la littérature doit être un cri. Et un cri ne comporte pas beaucoup de figures de rhétorique. Un cri ne se compose pas. Un cri ne s'organise pas. Je crois que la rhétorique n'intéresse pas beaucoup Calais. En revanche, Ponge est un homme évidemment préoccupé de langage et préoccupé de rhétorique. Et c'est l'un des points communs qu'il a avec Paulhan et un des terrains de connivence qu'il a.
D'ailleurs, l'un des textes que vous avez choisi dans l'anthologie du premier livre, Francis Ponge, Profession artiste en prose, s'intitule Rhétorique.
Rhétorique, oui. L'art de fonder sa propre rhétorique est une œuvre de salut public. Salut public pour tout le monde. Et fonder sa propre rhétorique contre la rhétorique qui nous est imposée, c'est-à-dire la rhétorique publicitaire, la rhétorique politique, tous les clichés dont on nous bourre le crâne constamment. Et c'est contre ça que Ponge veut d'abord résister, apprendre à parler et à parler soi-même et non plus être parlé, comme on disait autrefois ou comme disait Sartre.
Avec Philippe Jacotet, le point de rencontre, c'est le dehors.
C'est le dehors. C'est l'objet pour Ponge et puis le paysage pour Jacotet. leur point commun, c'est un souci de rendre compte d'un certain dehors, mais d'une façon très, très différente, parce que chez Jacotet, il n'y a pas une préoccupation de la description. Il y a une préoccupation de l'émotion. D'où vient l'émotion que je ressens en voyant les amandiers en fleurs ou des choses
L'émotion, ce n'est pas du tout privilégié par Francis Ponge.
Mais il en parle de l'émotion. Simplement, il en parle en disant que... Il y a deux types d'objets chez Ponge. Il y a des objets comme le galet qui sont choisis volontairement parce qu'ils sont indifférents. Ils ne suscitent absolument aucune émotion, mais il y a des objets comme le prêt dont l'origine est une émotion. Mais Ponge ne va pas insister sur cette émotion. On va la voir paraître dans les brouillons, mais on ne la verra plus paraître dans les textes dit définitif.
Jacotet n'a pas donné son congé au poème, lui.
Non, il n'a pas donné son congé au poème. Il vit dans l'espoir du poème, dans sa nostalgie ou dans son attente. Alors que je crois que Ponge a donné congé au poème.
Ouais. Ça me fait penser tout d'un coup qu'il y a un autre ami qui aurait pu se trouver dans votre portrait de groupe, qui n'y est pas, qui lui a donné congé à la poésie, c'est Denis Roche.
Denis Roche, bien sûr, oui, bien sûr, Denis Roche. Bon, j'avais une grande admiration pour Denis Roche, pour son savoir, pour sa culture. Mais bon, Denis Roche... La poésie est inadmissible, la poésie n'existe pas, il a détruit la poésie comme Duchamp a détruit la peinture. Ponge avait dans le groupe tel quel, avait beaucoup d'affinités avec Denis Roche.
Deux livres de Gérard Farras aux éditions Alcide à Nîmes, Francis Ponge, profession artiste en prose, et Francis Ponge, vie parallèle. Du jour au lendemain, Bruno Mourlan, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.